France Inter, il est 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et bienvenue sur France Inter, nous sommes le mardi 3 décembre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, J-2 avant le début du mouvement de grève contre la réforme des retraites. Et pour tous ceux qui devront aller travailler, les derniers préparatifs. Reportage aujourd'hui dans les hôpitaux parisiens où covoiturage et hébergement s'organisent. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
Le découragement des commerçants du Var qui tentent une nouvelle fois de tout nettoyer après les inondations. Les 70 ans de l'OTAN à Londres, un sixième sacre pour Lionel Messi, élu Ballon d'Or 2019 hier soir à Paris. Et puis dans la catégorie cadeau au pied du sapin, eh bien il y a une conteuse merveilleuse.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Après Thomas Piketty hier, le son de cloche d'un économiste d'une autre famille de pensée sur la réforme des retraites, celui de l'historien et économiste libéral Nicolas Bavrez. Soutient-il la réforme du gouvernement? On lui pose la question à 7h50.
À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, au micro d'Inter. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. On connaîtra en fin d'après-midi les prévisions de trafic précises à la SNCF et à la RATP pour jeudi, mais on sait déjà que la grève contre la réforme des retraites sera très suivie. La CFDT Cheminot a d'ailleurs rejoint le mouvement hier, faute d'avoir obtenu des réponses claires sur les intentions du gouvernement. Alors les salariés qui le peuvent choisiront le télétravail, mais pour ceux qui doivent se rendre dans leur entreprise, le système D se met en place, notamment dans les hôpitaux où il faut assurer la permanence des soins. L'APHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, a ainsi organisé des systèmes de covoiturage, de remboursement de location de vélo ou encore d'hébergement chez un collègue. Reportage de Daniel Messager.
Dès demain soir, le dispositif habituellement réservé aux épisodes neige sera activé. Ça veut dire des chambres dans les hôpitaux même pour héberger les personnels qui ne pourraient pas se déplacer. Sylvain Ducrose, le directeur des ressources humaines de l'APHP.
On a plusieurs dispositions. Tout d'abord, c'est de permettre à nos personnels de rester et être hébergés sur les sites hospitaliers, tout simplement dans des chambres d'hôpitaux qui sont pas occupées ou qui sont fermées la nuit. On sait aujourd'hui qu'on a environ plus de 500 chambres dans ce cadre-là. On a eu plusieurs propositions de personnel, de médecins notamment, qui habitent dans Paris et qui se proposent d'héberger des collègues qui sont en difficulté. Et puis, on est également en contact avec une grande chaîne hôtelière pour, au cas où ces mesures-là ne suffisent pas, essayer de trouver des hôtels pas trop loin pour permettre à nos personnels de faire moins de trajets que le retour à leur domicile.
Autre mesure, un contrat avec une application de covoiturage en rétribuant les conducteurs avec des bons d'achat. Déjà 300 inscriptions ont été enregistrées les deux derniers jours. Le remboursement de l'usage d'un Vélib, la possibilité pour le personnel administratif d'effectuer du télétravail. Si pour le moment il n'y a pas de déprogrammation d'intervention chirurgicale, les soins seront assurés au moins les premiers jours. Mais il y a une certaine inquiétude si le mouvement devait se prolonger la semaine prochaine.
Sur le fond de la réforme et en attendant les arbitrages du gouvernement mi-décembre, l'inquiétude grandit. Chacun se demande à quel âge et avec quelle pension il pourra partir à la retraite. Parole de salarié dans le Zoom de France Inter à 7h15. Autre mouvement de protestation, celui des policiers travaillant la nuit qui dénoncent leurs conditions de travail et de rémunération. Le syndicat SGP Police appelle les agents à ne plus faire de ronde la nuit et à sortir uniquement sur appel, ce que font déjà depuis 3 jours les policiers du Maine-et-Loire. Et puis c'est aujourd'hui que les patrons du BTP doivent décider de la suite à donner leur mouvement, alors que le dépôt de Verne-sur-Sèche, le dépôt pétrolier près de Rennes, est en train d'être débloqué par les forces de l'ordre. Depuis vendredi dernier, plusieurs dépôts dans l'ouest de la France sont en effet bloqués, provoquant des pénuries dans plus de 500 stations-service. Hier, lors d'une réunion à Bercy, les patrons ont obtenu des avancées, mais pas de délai supplémentaire quant à la date d'application de la suppression progressive de l'avantage fiscal pour le gazole non routier. La suite, à présent, des intempéries dans le sud-est de la France. Une nouvelle fois, les commerçants de Roquebrune sur Argence tentent de reprendre le travail et d'effacer les stigmates des inondations qui ont frappé le Var 2 fois en 8 jours. Le bilan des dernières intempéries est très lourd. 2 morts et une femme toujours portée disparue à Grimaud, sans oublier les 3 secouristes tués près de Marseille dans le crash de leur hélicoptère. Partout, les mêmes scènes de désolation, maisons inondées, routes submergées. Reportage donc à Roquebrune sur Argence où les entreprises ont les pieds dans l'eau. Christelle Marquès.
À l'entrée de sa serre, la gérante de l'entreprise Vacherot est comme tétanisée face à l'étendue des dégâts. Toute son installation est bonne achetée avec ses orchidées, situation déjà vécue en 2010 notamment.
Deux fois en une semaine, là. La mairie à tout le monde, hein, ils font rien. Ça fait 10 ans que c'est comme ça, ils font rien et ils s'en foutent. Hein. Là, l'impression qu'on a, ils s'en foutent. J'ai juste envie de partir en courant, voilà.
Plus un mot ne sortira de sa bouche tellement sa gorge est nouée. Un peu plus loin, le restaurant du lac n'existe plus, une nouvelle fois là aussi. Pourtant, son gérant refuse de céder à la colère. Laurent Grégoriou veut simplement comprendre.
On cherche surtout à comprendre pourquoi rien ne se passe depuis des années. On fait des études depuis 10 ans. Maintenant, je pense qu'il serait vraiment temps de passer à la phase travaux. Il y a des choses qui ont été faites en amont de la rivière, alors que tout le monde sait très bien qu'elles auraient dû être faites en aval. On va essayer de comprendre pourquoi, d'être un tout petit peu plus présent dans l'implication de ces travaux et suivre vraiment pour savoir ce qui se passe.
En attendant, on n'a pas le choix, indique un autre chef d'entreprise. Il faut qu'on avance vite pour payer nos salariés.
Et puis grosse frayeur hier après-midi lorsque plusieurs centaines de tonnes de rochers se sont effondrées sur des maisons des Mets dans les Alpes de Haute-Provence. Plusieurs maisons ont dû être évacuées mais personne n'a été gravement blessé.
Il est 7h06, Agnès. L'OTAN célèbre ses 70 ans à Londres.
Un anniversaire dans une ambiance plutôt fraîche en raison des divergences entre trois des principaux aux acteurs de l'Alliance Atlantique, Emmanuel Macron, Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan, mais aussi en raison du jugement porté par le président français sur une organisation en état de mort cérébrale, les propos du président français avaient choqué Bertrand Galichet.
Le diagnostic implacable d'Emmanuel Macron sur l'OTAN sera dans tous les esprits à Londres, où le président français doit rencontrer successivement Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan. Au risque d'être accueilli un peu fraîchement, le président français a raison d'assumer ce qu'on constat, dit Pierre Servant, expert en stratégie militaire.
Pour moi, personne ne pourra s'esquiver par rapport à cette question. Est-ce que l'OTAN est en état de mort cérébrale ou non pour ses 70 ans?
Ce sommet permettra-t-il de prendre des décisions pour l'avenir de l'OTAN?
Les sommets de l'OTAN, c'est 4 minutes de prise de parole par pays membre de l'OTAN. Mais il y a quand même deux questions importantes qui vont être posées. C'est comment on fait pour réformer cette structure politique? Et surtout, quid de la Turquie? La Turquie est devenue une sorte de cheval de Troie de Moscou à l'intérieur de l'Alliance Atlantique.
Officiellement, l'appartenance de la Turquie à l'OTAN n'est pas mise en cause. Malgré le contentieux sur les achats de missiles russes par Ankara, la contribution financière des États européens à l'OTAN, elle, reste un sujet de friction, même si les États-Unis viennent de se voir attribuer un marché d'1 milliard de dollars pour moderniser les avions radars AWACS de l'OTAN.
Avant d'arriver à Londres pour participer à ce sommet, Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires jusqu'à 100% sur l'équivalent de 2,5 milliards de dollars de produits français, pour protester contre la taxation française des GAFA. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Les chefs d'État qui participent au sommet de l'OTAN sont invités à dîner ce soir à Buckingham. Alors que la famille royale est dans la tourmente, le prince Andrew, second fils de la reine, est accusé d'avoir abusé d'une mineure. Dans une interview à la BBC, son accusatrice a pris hier soir l'opinion publique britannique à témoin. Louise Baudet est à Londres pour France Inter.
Il sait ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Un seul d'entre nous dit la vérité.
C'est sa toute première interview à un média britannique. Virginia Giuffre, mariée, mère de 3 enfants, raconte comment en 2001, Jeffrey Epstein la présente au prince Andrew dans un nightclub londonien et la contraint à avoir des relations sexuelles avec lui. Il y aura 2 autres occasions à Palm Beach en Floride et dans l'île privée d'Epstein aux Caraïbes. Accusation catégoriquement démentie par le prince malgré une photo où il tient la jeune fille par la hanche. Photo trafiquée, dit-il.
Je pense que tout le monde est écœuré par ces excuses ridicules. Je supplie les Britanniques de me soutenir, de m'aider à mener ce combat. Ce n'est pas un simple scandale, c'est une affaire d'abus sexuel qui concerne votre famille royale.
Une affaire qui a contraint le prince Andrew à quitter la vie publique, mais il n'y a pour l'heure pas d'enquête criminelle au Royaume-Uni. Selon la BBC, le second fils de la reine Elizabeth pourrait toutefois être assigné à comparaître devant la justice américaine. 5 autres victimes d'Epstein réclamant son témoignage. Londres, Louise Baudet, France Inter.
L'interview est à retrouver sur notre site, extrait et vidéo sur franceinter.fr. Retour en France avec un couple qui se déchire devant les tribunaux. Lui n'est autre que Thierry Gobert, l'un des prévenus du volet financier de l'affaire Karachi, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy. Il comparaissait hier à Paris pour fraude fiscale et blanchiment aux côtés de son ex-épouse Hélène de Yougoslavie, qu'il avait dénoncée en 2011. Et ce, alors que Mediapart a révélé dimanche qu'un versement sur l'un des comptes offshore de Thierry Gobert provenait bien de fonds libyens. Emmanuel
Leclerc.
La présidente du tribunal a tout d'abord rappelé l'origine géographique des comptes frauduleux de l'ex-couple Thierry Gobert et Hélène de Yougoslavie. Et c'était un peu le hit parade des paradis fiscaux des années 2000. Panama, Bahamas, les îles Vierges britanniques et la Suisse. Hélène de Yougoslavie a juré à la barre qu'elle ne savait rien de l'origine des fonds qui atterrissaient parfois et transitaient sur des comptes ouverts en son nom, encore moins des montants astronomiques qu'elle a découverts lorsqu'elle a décidé de divorcer. Elle a rappelé des sanglots dans la voix, les menaces verbales encaissées à l'époque, qu'elle avait même fini par enregistrer, qu'elle a remis à la police. On l'entendait, dit-elle, me traiter de salope, de pourriture, de débile et de crétine, que j'irais en prison si je parlais aux policiers. William Bourdon est l'avocat d'Hélène de Yougoslavie.
Elle a été dans une espèce de loi qui lui a été imposée. Sois belle et tais-toi. Fais la cuisine et tais-toi. Ne pose aucune question.
Thierry Gobert n'a pas encore été entendu sur les accusations de son ex-femme. Ce sera le cas demain matin. Et il pourrait, nous a-t-il confié hier soir, s'expliquer également sur les révélations de Mediapart et ses 440 000 euros non déclarés au fisc en France qu'il aurait reçus de Ziad Takieddine en février 2006. L'intermédiaire franco-libanais avait récupéré cette même somme quelques jours plus tôt en provenance d'un compte du pouvoir libyen.
Pas de surprise hier soir lors de la 64e cérémonie des Ballons d'Or. Lionel Messi et Megan Rapinoe ont décroché les trophées de meilleurs joueurs et joueuses de l'année 2019. Sixième sacre pour l'Argentin que l'on a senti un peu blasé et premier pour l'Américaine qui n'était pas à Paris hier soir.
Et on finit à 7h11 avec une invention française. Agnès, il s'agit d'une compteuse merveilleuse et électronique.
Une alternative au tout écran alors que les enquêtes se succèdent pour mettre en garde contre les abus. Selon une récente étude canadienne, 95% des enfants de 3 ans passent plus de 7 heures par semaine devant un écran, au-delà des recommandations de l'OMS. Cette compteuse donc se présente sous la forme d'un cube, sans écran ni bouton. Il faut la secouer et une histoire démarre. Sébastien Sabiron.
C'est un petit cube aux couleurs douces, à l'intérieur une technologie qui réagit au mouvement de l'enfant.
L'enfant choisit une face, il secoue 3 fois.
Le lion rugit dans les couloirs de son palais. Mais le lion a très mauvaise haleine.
Des contes, des comptines, un abécédaire, 3h30 d'audio, mais pas d'image. Valérie Latour-Burnet, co-créatrice de La Conteuse Merveilleuse.
L'écran, en fait, sur les petits, leur vole du temps pour grandir, rêver, jouer, s'amuser, écouter, découvrir. Et c'est tout ce que peut offrir une conteuse qui est là pour parler à leur imaginaire. Et c'est eux qui développent leur langage, leur vocabulaire en écoutant ces histoires.
Version moderne du manche-disque, le cube a été conçu par Mathieu Roumins, un entrepreneur inquiet de voir son fils de 3 ans fasciné par les smartphones.
C'est très flippant en fait. Ils sont mais totalement hypnotisés, aspirés par l'écran en fait. À un moment donné, bon, j'ai eu l'idée du cube, j'ai mis un prototype dans les mains de mon fils. Immédiatement, il l'a secoué pour voir ce qui se passait. À ce moment-là, j'ai compris que mais c'était ça, le fonctionnement, tout simplement.
L'an dernier, les 1000 premiers modèles se sont arrachés en 3 semaines. 15 000 nouveaux exemplaires ont été produits et frisent déjà la rupture de stock.
Et sur ma trottinette, je pète.
Une conteuse qui a un prix, 80 euros, et elle est destinée aux enfants à partir de 2 ans.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le zoom sur les retraites et ses salariés rattrapés par une réforme à laquelle ils croyaient échapper.